Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il va nous plonger dans l'univers des gangsters du narcotrafic. Il est l'auteur d'un livre choc qui révèle l'ampleur du trafic de drogue en France, le journaliste Frédéric Ploquin, auteur du livre donc « Les narcos français brisent l'omerta ». Il a rencontré des dizaines de trafiquants, argent facile, guerre des gangs, blanchiment. Il sera avec nous dans quelques minutes. 18h30, les polémiques du jour. Que faut-il retenir de la conférence de presse de Jean Castex? Pas de reconfinement a priori en vue. On en débattra avec les grandes voix. Et puis 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Alexandre Malafaille. Avant le grand débat du Club des Idées à 19h20. Ce soir, on vous plonge dans les secrets de la DGSE. Comment opèrent nos espions? Opération secrète, agents infiltrés. Une nouvelle vidéo lève le voile sur quelques-unes de leurs méthodes. On en parlera. Vous verrez, c'est passionnant avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Malgré cette pandémie qui a retardé trop de soins, je tenais à acter les choses avec vous. Car l'amélioration de la vie des 5 millions de familles françaises touchées par le cancer n'attend pas.
Le cancer n'attend pas. La lutte contre le tabagisme au cœur du grand plan présenté ce matin par Emmanuel Macron avec une priorité, les jeunes.
Le chef de l'État rêve d'une génération sans tabac en 2030.
Un nouveau point d'étape sur la crise sanitaire ce soir avec la nouvelle intervention de Jean Castex et de ses ministres.
A priori, oui, pas d'annonce, mais de nouvelles mises en garde. Le Premier ministre devrait demander aux Français d'être particulièrement vigilants pendant les vacances.
Le procès de la mort du petit Tony, audition cet après-midi de son beau-père, l'homme qui a fait subir un calvaire à l'enfant et lui apporter les coups mortels.
Au sommaire également ce soir, Marseille. Marseille qui veut se débarrasser du vélodrome qui lui coûte trop cher.
Le mythique stade est à vendre. C'est une gabegie financière, dit le maire. La bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,82% à 5 608 points.
La météo, Anissa Haddadi, bonsoir. Toujours de nombreuses vigilances hein, demain. Soyons prudents.
Oui, bonsoir Julien. Et une bonne nouvelle quand même. Ce soir, le Lot-et-Garonne est repassé en vigilance orange comme l'espérait le maire de Marmande. 8 départements du sud-ouest sont toujours en vigilance crue, 5 dans les Hauts-de-France et puis la Saône-et-Loire toujours en vigilance orange crue. Demain, nous aurons moins de pluie, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et en cette journée mondiale contre le cancer, Emmanuel Macron a donc donné le cap des 10 prochaines années. Il a présenté la stratégie nationale de lutte avec un message. La pandémie de Covid ne doit pas faire renoncer au dépistage et aux soins. Le cancer qui, on le rappelle, tue 157 000 personnes chaque année en France.
Anne Le Gall, le président de la République, a donc annoncé le déblocage d'1,7 milliard d'euros sur 5 ans. C'est 20% de plus qu'entre 2016 et 2021. Pourquoi faire exactement ?
Alors, le premier objectif, c'est de réduire de 60 000 le nombre de cancers évitables d'ici 2040. Aujourd'hui, 40% des cancers pourraient être évités, notamment ceux dus au tabac et à l'alcool. Le président veut mieux sensibiliser les Français à cette prévention. En jouant sur les prix, les messages sur les bouteilles, il souhaite aussi que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération non fumeuse de l'histoire. Autre priorité fixée par Emmanuel Macron, renforcer la recherche pour les cancers de mauvais pronostic et réduire d'un tiers les séquelles dues au traitement.
Nous devons en effet mieux prendre en compte cette dimension, et cela dès l'élaboration des thérapies. Les séquelles, c'est aussi ce qu'on vit quand le cancer nous a contraints à quitter des études, un emploi. 20% des personnes ayant quitté leur emploi du fait de leur cancer ne l'ont pas retrouvé 5 ans après le diagnostic. Avec le secteur privé, nous changerons cela.
Un autre axe prioritaire, c'est l'organisation d'1 million de dépistages supplémentaires d'ici 2025, car un cancer dépisté tôt se guérit mieux. Il faut progresser dans le dépistage du cancer du côlon et faire naître de nouveaux tests, notamment pour repérer plus tôt les cancers du poumon, par exemple. L'Élysée annonce donc 1,7 milliard sur 5 ans pour ce plan, dont la moitié sera dédiée à la recherche.
Merci Anne Le Gall pour ces précisions. Alors vous le disiez, le chef de l'État vise une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030.
Et qui ont donc aujourd'hui théoriquement 11 ans. Caroline Baudry, vous leur avez tendu le micro Europe 1. Est-ce qu'ils sont prêts, Caroline, à relever le défi ?
Oui, quand on pose la question à des collégiens de 5e, fumeront-ils des cigarettes plus tard ? Eh bien, leur réponse est catégorique.
Non.
C'est logique.
Moi, je veux garder ma santé. Je veux pas être en mauvaise santé.
Non, ça coûte trop cher. En plus, c'est rien. Ça t'abîme les poumons pour un cancer.
Il paraît que quand tu fumes, tu perds 14 ans de ta vie.
Il y en a qui fument beaucoup déjà au collège.
Ouais. Oui, il y a les 3e qui fument.
Okay. Et ben, ils se sentent obligés de fumer parce que sinon, ils sont pas avec les autres ou des trucs comme ça. Tu vois.
Il y a la crise d'adolescence, je crois.
Vous l'entendez, le message est passé, surtout via leurs parents. parents, même fumeurs, ou les images sur les paquets de cigarettes. La prévention à l'école sera, elle, renforcée, promet Emmanuel Macron ce matin. Pas de quoi convaincre Garance et Jocelyn, 18 ans, croisés un peu plus loin, cigarette à la bouche.
Je fume parce que mes potes fumaient ou parce qu'au cinéma, bah, y a plein de personnages qui fument. Et même pour les petits qui voient leurs parents fumer, c'est déjà ancré en fait dans leur quotidien.
C'est pas vraiment la prévention qui peut y faire quelque chose. C'est ancré dans la culture, quoi.
Un problème de modèle, donc, racontent ces jeunes influencés par leur société. Difficile, selon eux, à changer en seulement une dizaine d'années.
Le reportage donc de Caroline Baudry auprès de
c'est
ce qui
gagné,
sera peut-être la future génération sans tabac. En tout cas, du côté de l'épidémie de Covid, en théorie, pas de nouveau tour de vis, pas de nouvelles mesures qui chambouleraient notre quotidien. Lors de la traditionnelle conférence de presse de ce jeudi soir, Jean Castex et ses ministres qui doivent surtout appeler les Français à la responsabilité.
Oui, pas de mesure pour l'instant. On reste évidemment prudent. Hein. Jean-Rémy Baudot, vous suivez justement cette intervention du Premier ministre pour nous. Alors que faut-il en attendre? C'est un rendez-vous qui est plutôt présenté comme un point d'étape.
Oui, Matignon ne prévoit pas de grosses annonces ce soir, pas de changement de doctrine. La ligne édictée vendredi depuis l'Élysée, celle d'un couvre-feu renforcé, devrait rester en vigueur. Mais l'idée ce soir, c'est de maintenir la pression. Il faut que les règles mises en place soient pleinement appliquées, explique un proche du Premier ministre, quitte à taper du poing sur la table. Au gouvernement, on note que certaines mesures ne sont pas encore assez respectées. C'est le cas du télétravail. Elisabeth Borne abordera donc le renforcement des mesures sanitaires en entreprise. Et puis, puisque c'est dans la tête du monde entier, Jean Castex et Olivier Véran feront un point sur les vaccins. Ils vont détailler la suite du calendrier vaccinal et notamment annoncer comment le nouveau vaccin AstraZeneca sera utilisé. Qui, quand et par qui ce sérum sera administré, les pharmaciens pourraient ainsi rapidement rentrer dans le jeu. Voilà donc une conférence de presse effectivement d'étape, car pour le moment la situation reste globalement sous contrôle. Mais on est sur une ligne de crête pour éviter un confinement. Voilà ce que m'expliquait ce matin un conseiller.
Alors Jean-Rémy, les vacances de février débutent demain soir pour une partie des Français. Est-ce qu'ils vont pouvoir partir sereinement ?
Oui, le message au sein du gouvernement, il est plutôt optimiste. Partez en vacances, mais faites attention. Voilà ce qu'on entend en somme depuis plusieurs jours. Sachez que personne au sein de l'exécutif ne se risque à faire des pronostics au-delà de 2-3 jours d'ailleurs. À chaque publication de nouveaux chiffres, la question d'un reconfinement peut revenir sur la table. On est dans une séquence où les décisions sont donc plus politiques que réellement 100% sanitaires. On comprend qu'à la moindre alerte sérieuse, notamment des variants, la stratégie évoluera. On réagira vite si besoin, promet ainsi un membre de cabinet. Donc oui, les Français peuvent partir en vacances, mais comme me le confie un ministre aujourd'hui, on repousse tant qu'on peut. Et à la fin, si on a gagné 10 jours sur le confinement, eh ben, ce sera déjà bien. Fin de citation. Vous le voyez, face au Covid, la prudence reste de mise au sommet de l'État.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 qui suit donc cette conférence de presse du Premier ministre. Et si la proportion du variant britannique en France atteint désormais 14% des cas détectés, la bonne nouvelle, c'est que l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech sur ce variant, comme sur le sud-africain, semble se confirmer. Et puis notez que Mayotte se reconfine pour 3 semaines face à la diffusion du virus, notamment chez les plus jeunes. Le variant sud-africain, il circule très vite et touche beaucoup de monde.
Et puis la thèse du virus s'échappe d'un laboratoire en Chine qui serait à l'origine de la pandémie. On en avait beaucoup parlé. Cette thèse mise à mal par les experts de l'OMS qui se sont rendus sur place.
Oui, le chef de ces experts estime qu'elle est peu crédible et que ce serait même un excellent scénario de film ou de série. Il faut dire qu'on attendait assez peu de transparence de la part de la Chine. On y reviendra à 19h avec Didier François.
Il faut dire que toute la pandémie pourrait être un long film. Hein. Oui. Après une embellie en décembre, la consommation des ménages en baisse de 7% au mois de janvier.
Les Français ont moins dépensé qu'habituellement à la même époque. C'est assez logique avec le couvre feu et le décalage des soldes.
Une journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi.
Mot d'ordre du jour, défense de l'emploi et des services publics. Des milliers de personnes ont manifesté à l'appel de la CGT notamment.
La justice également au menu ce soir. 4e jour du procès de la mort du petit Tony devant la cour d'assises de la Marne avec l'audition cet après-midi du beau-père de l'enfant.
Oui, un beau-père qui est accusé d'avoir porté les coups mortels et d'avoir fait subir un insoutenable calvaire au petit garçon de 3 ans. Une audition glaçante, Marion Dubreuil.
Oui, Loïc, carrure athlétique, ne montre aucune émotion à la barre. Rien ne le touche, ni sa propre expérience d'enfant battu, ni les pleurs de Tony quand il le frappait. L'accusé parle de méthode éducative pour punir Tony parce qu'il a fait pipi au lit, ou mal répondu à sa mère, ou bien encore parce qu'il a le sentiment que le petit garçon de 3 ans se moque de lui. Puis il reconnaît ne pas pouvoir s'en empêcher. « J'aurais dû arrêter », admet l'accusé, mais il ne veut pas porter seul la responsabilité de la mort de Tony. « Caroline aurait dû m'empêcher de le frapper ou me quitter », explique Loïc. « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti ?» demande la juge. L'accusé n'a pas de réponse. Jean-Baptiste Rosès, avocat de l'association Innocence en danger, se dit atterré.
Je pense que les deux ont du mal à concevoir, à accepter, à reconnaître une part de responsabilité. Caroline, c'est effarant et lui, c'est encore plus effarant en fait. Il dit quand même, j'ai participé à sa mort, mais je ne l'ai pas tué. Donc il n'arrive pas peut-être à reconnaître à lui-même qu'il est responsable de la mort du petit garçon.
Interrogé hier sur les qualités de Loïc, sa propre mère a été incapable d'en citer une. Une ex-petite amie est arrivée à cette conclusion. Il n'y a rien de bon chez lui.
Marion Dubreuil qui suit donc ce procès pour Europe 1. La décrue s'amorce dans le sud-ouest, mais on verra tout à l'heure avec Anissa Adani que plusieurs départements restent en alerte. En Guadeloupe, après le fort épisode pluvieux, on a appris cet après-midi la mort d'une petite fille qui avait été emportée par les eaux. On est par ailleurs sans nouvelles d'un homme de 70 ans, mais une touriste finlandaise de 45 ans a, elle, été retrouvée vivante.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h11. Que se passe-t-il à Marseille? C'est un stade mythique, évidemment, le Vélodrome avec ses supporters passionnés. Eh bien, le Vélodrome est à vendre.
Et oui, tout simplement, car il coûte trop cher. C'est en tout cas ce que dit le maire Benoît Payan, Corinne Boulouin.
Oui, et là, la suite dans les idées, la menace de vente se fait plus précise dans les mois ou les années à venir. Comme il l'a expliqué hier lors d'un échange avec des internautes, c'était lors de la présentation d'un audit particulièrement négatif sur la situation financière de la ville.
Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition, je le ferai si je trouve un acheteur. Le stade, c'est plus possible. Niet, terminé. 15 millions d'euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant 30 ans, terminé.
L'élu parle de gabegie financière. Il dénonce une mauvaise négociation financière qui aurait coûté à la ville 93 millions d'euros, alors que côté recettes, le loyer de 5 millions d'euros versé par l'Olympique de Marseille à la ville est considéré comme bien trop faible. Pour Thierry, supporter de l'OM depuis 40 ans, ce coup de sang du maire n'est pas une surprise, comme il l'a confié à Laura Taouchanoff.
Ce stade, il a déjà coûté énormément d'argent à la population marseillaise. Et le maire, il est bien obligé de trouver de l'argent et de se séparer, par exemple, du stade Vélodrome. Quoi. Pour moi, pour l'instant, c'est une phrase qu'il a donnée comme ça. Quand on voit le prix qu'il a coûté, je vois mal une personne racheter le stade Vélodrome. Ou alors, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le foot ou dans le sport, raser le stade Vélodrome et puis faire de l'immobilier à la place. Mais bon, je pense qu'il y a une fronde dans Marseille, là. Hein.
Alors, en attendant d'éventuels acheteurs, ces propos interviennent dans un contexte de crise au sein de l'OM après la mise à pied de son entraîneur, les violences au centre d'entraînement et à 3 jours maintenant du choc attendu avec le PSG au Vélodrome.
Merci Corinne Boulou.
En rugby à présent, on a la liste, ça y est, des Bleus retenus pour jouer face à l'Italie pour le premier match de la France dans le tournoi des Six Nations samedi à Rome.
Oui, ce sera même le match d'ouverture. Brice Dulin titularisé à l'arrière, Gabin Villiers à l'aile, préféré à Damien Penaud qui sera remplaçant et Simon Rubin viendra nous détailler cette liste beaucoup mieux que moi à 19h.
Bien, en attendant, Isabelle, on va parler maintenant d'amour. Le vrai amour, le tout premier en somme.
Vous vous souvenez sans doute, Julien, de ces petits mots que vous glissiez en rougissant dans le cartable de votre amour, votre premier amour de CM1. Eh bien, une journaliste a eu la bonne idée de compiler, sans doute. Vous êtes très précoce. Une journaliste a eu la bonne idée, en tout cas, de compiler les plus belles lettres d'amour d'enfants. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
Ça vient de sortir, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ces lettres, vous les avez épluchées avec attention. C'est un régal et en plus, il y en a de toutes sortes.
Hein. Oui, il y a d'abord ceux très nombreux qui passent du coq à l'âne en une phrase. À cet âge-là, l'amour est aussi important qu'une séance de poney. Je vous lis la lettre. Nelson, je t'aime, mais ce n'est pas tout. Je suis allé faire du poney à la ronce chez ma tati, Lola. Il y a aussi ceux qui ne savent pas prendre de pincettes, comme Marion. Cher Maxime, moi aussi je t'aime, mais pour amitié. Avec toi, ça ne va pas plus loin, mais t'es une super pote. T'es un super pote, j'espère ne pas te faire de peine. S'il te plaît, ne pleure pas, Marion. Il y a aussi ceux qui font des superbes promesses. Cher Sébastien, je t'aime beaucoup, alors arrête de m'embêter, il faudra qu'on se marie. Je t'aime, Émilie, et puis bien sûr les fleurs bleues. Julia, je t'offre mon cœur comme je t'offre la flamme qui est en moi. La nuit, quand je me réveille, tu es ma lumière. Je veux te dire que tu n'es pas la plus belle, tu es pire. L'IS, cette sélection des plus belles lettres d'amour d'enfance, c'est Morgane Pellenet qui en a eu l'idée il y a 2 ans en fouillant dans sa boîte à souvenirs.
Je suis retombée sur une lettre que m'avait écrite mon amoureux de colo quand j'avais 11 ans. Et c'est une lettre qui m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, il m'écrivait qu'il avait cassé avec Lucille parce qu'il n'était pas trop pour la polygamie et que finalement, il m'avait choisi et qu'il m'aimait de tout son cœur et tout ça. Et j'ai trouvé ça super drôle et en fait, j'ai eu envie de lire d'autres lettres.
C'est comme une Madeleine de Proust, ces lettres enfouies dans un vieux tiroir, une boîte à chaussures. Pour ma part, j'ai tout gardé dans une boîte en fer carambar jaune. Mes premières lettres d'amour où je recevais autant de bisous qu'il y avait de grains de sable dans le désert. Bref, Faites-les lire à vos enfants, ça les fera rire, c'est sûr. Et surtout, un conseil, ne jetez pas ces merveilles, vous serez ravis de les retrouver dans 20 ans.
Mais finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Non, pas vraiment.
Les mots sont différents, mais l'intention est à peu près la même.
L'intention est toujours la même, exactement.
Victor Delande qui parle aussi bien du Covid que d'amour.
Merci. Merci Victor, merci Isabelle. À tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. Elle aussi, elle parle très bien d'amour et de la météo, évidemment. Anissa nous a retrouvés. Le Lot-et-Garonne fait partie des 14 départements en vigilance orange cru. Et demain, les pluies seront aussi plus faible, ça c'est plutôt la bonne nouvelle,
ouais,
ça veut dire que la décrue est engagée.
La décrue s'amorce, mais elle sera très longue. Alors demain, nous aurons peu de pluie, le temps est assez calme, nuageux sur la moitié nord, avec attention de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est, en passant par le centre-val de Loire, des petites averses. Et puis dans le sud, pas mal d'entrées maritimes sur la côte d'Azur et la Corse, des entrées maritimes qui seront tenaces. La pluie arrive sur les Cévennes dans l'après-midi, accompagnée du vent d'autant qui va souffler fort. Les températures sont stationnaires comme aujourd'hui, 4 à 11 degrés le matin, nous aurons 8 degrés à Paris et 9 à 19 dans l'après-midi.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, il va nous plonger dans l'univers secret des trafiquants de drogue. Il publie un livre absolument passionnant sur l'ampleur du phénomène chez nous en France, assez inquiétant d'ailleurs. Bonsoir Frédéric Ploquin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous êtes journaliste, grand spécialiste du banditisme et vous publiez donc Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. C'est absolument passionnant, je le disais. C'est un livre dans lequel vous donnez la parole aux trafiquants, aux petits d'ailleurs comme aux gros, y compris des trafiquants d'ampleur internationale, mais aussi à des policiers qui les combattent. On va en parler dans le détail. D'abord, comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils vous accordent cette confiance-là?
C'est un travail de longue haleine. Moi, je m'intéresse aux crimes, aux voyous et aux policiers depuis au moins une trentaine d'années. Donc à partir de là, vous savez comment ça se passe dans le journalisme, on noue des contacts, on crée des liens de confiance.
C'est la confiance, oui, c'est ça.
Que ce soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, parce que c'est la même, à peu près aussi compliqué avec les fonctionnaires de police,
oui,
que avec les voyous. Pour ce qui est des voyous et des narcotrafiquants, en l'occurrence, c'est vrai que comme je travaille depuis longtemps sur le sujet, j'avais rencontré déjà les pionniers. On va dire, la France peut se targuer d'avoir inventé les routes de la drogue.
Oui.
Ça, personne ne le sait vraiment. Mais avec la French Connection dans les années 70-80, les voyous français, les trafiquants français ont inventé des routes qui allaient de l'Indochine à Marseille, et puis de Marseille à l'Amérique du Sud, et puis de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Donc ils ont créé ces routes de la drogue. Il y a vraiment un côté pionnier. Mais ça, c'était il y a un demi-siècle.
Oui.
Et on ne se rend pas compte à quel point la drogue, entre-temps, en 50 ans, s'est complètement installée dans notre territoire.
Oui.
C'est presque, pour ainsi dire, banalisé. Maintenant, vous trouvez de la drogue absolument dans le moindre village de France.
Ce qui est fou dans le livre, on va en parler en détail, c'est qu'on pensait, quand on suit ça de loin, que c'était les Italiens, les Siciliens qui tenaient ce marché des narcotrafiquants chez nous en Europe. On se rend compte que en France, c'est également le cas. Une question comme ça, en passant, vous qui travaillez sur le sujet depuis une trentaine d'années, on sent dans le bouquin, quand on lit les entretiens, les récits que vous faites des dealers, les petits et les gros, que ça fait toujours rêver de la vie de voyou.
C'est ça, c'est peut-être un problème, c'est l'une des grandes hypocrisies de la drogue. C'est d'un côté, la drogue nourrit des grandes fictions, des films sympathiques, où on a des figures de bandits qui ont accès aux femmes, à l'alcool, à tout ce que vous voulez. D'un côté, il y a ça qui est mis en avant. Qui est mis sur le devant de la scène. Et puis de l'autre côté, il y a le réel que moi j'ai voulu aller chercher. Et quand vous approchez la nouvelle génération, vous vous rendez compte à quel point, par rapport aux bons vieux voyous d'autrefois qui ont quand même inventé des tas de choses,
oui,
les jeunes se sont hyper professionnalisés. Ça peut paraître troublant et choquant, mais ils sont assez pros.
Oui,
pourquoi
chacun
parce
est
que
dans son rôle, il y a une forme de hiérarchie. En revanche, c'est assez déstructuré quand même. C'est pas vertical comme les Italiens que j'évoquais
absolument
à l'instant.
Il y a pas de mafia en France.
Il y a pas de mafia. Voilà.
Il y a pas de mafia. Il y a plutôt des centaines et des centaines de points de vente, des centaines de structures avec des gros fournisseurs. C'est un peu. En fait, ils ont copié l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il y a des gros fournisseurs qui importent à la tonne, qui répartissent sur le territoire. Donc les plus puissants, quelque part, d'ailleurs, ce sont probablement les transporteurs qui, eux, gèrent. C'est un peu comme pour les supermarchés, vous savez, ceux qui acheminent, ceux qui, finalement, au bout du compte, sont plus puissants que les producteurs eux-mêmes.
En revanche,
les producteurs eux-mêmes, attendez, ils font pousser, entre guillemets, des orties, que ce soit la cocaïne ou le cannabis au Maroc. Sur place, sur pied, ça vaut rien. Il n'y a pas beaucoup d'entretien, il n'y a pas beaucoup d'investissement.
Ça n'est pas hiérarchisé, ça n'est pas structuré comme d'autres mafias ailleurs dans le monde. Mmh. En revanche, c'est normé et c'est codé. Vous dites par exemple, des vendeurs d'à peine 15 ans peuvent gagner jusqu'à 700 euros par semaine pour du cannabis. Mmh. Ça monte pour la cocaïne à 550 euros par jour. Et vous commencez, page 23, le livre, avec le récit de Youssef. Il a 39 ans. Il est trafiquant de cannabis sur le semi-gros et le gros. Ça représente quoi comme quantité, le semi-gros et le gros ?
Bah, il est entre le 500 grammes, 1 kilo, de 10 kilos, 100 kilos, jusqu'à 100 kilos. Quoi. Oui. Mais, voilà. Et le gros, c'est la tonne.
Et vous dites qu'il distribue en région parisienne. Et il dit ceci. Un mec qui fait le guet toute la journée en fumant du cannabis avec son petit scooter de merde touche 100 euros, soit 3000 euros par mois, sans impôts. Qui gagne ça ? Mes lieutenants, qui vendaient pour moi, dit-il, avaient tous de quoi payer leur loyer et s'acheter une voiture. Ils m'adoraient, en somme. C'est un combat perdu d'avance.
Bah, d'une certaine manière, à les entendre, de toute façon, ils ont gagné la bataille. Ils se sont imposés. Ils ont conquis le territoire. Ils sont... D'ailleurs, sinon, ils ne me parleraient pas de manière... Enfin, ils sont sur deux. D'une certaine façon, ils sont sur deux, ils s'affichent, etc. Mais le problème, c'est que quand vous gagnez 3000 euros à 16-17 ans, quel va être votre rapport ensuite au travail, par exemple ? Donc, ce que je veux dire, c'est que la drogue en soi... Ok, c'est bien gentil, des jeunes qui fument leurs petits joints dans leur coin, mais ça génère de la corruption, ça corrompt sur toute la planète, ça corrompt notre police, ça corrompt notre gendarmerie.
Ça corrompt notre police, dites-vous.
Ça corrompt notre police, exactement.
Notre police peut être corrompue par des trafiquants.
Il y a des affaires que je pointe là dans le livre régulier, si vous voulez. Notamment, il y a eu plusieurs affaires qui ont concerné des policiers qui sont en première ligne dans le cadre des BAC, les brigades anticriminalité. Ils vont tous les jours au boulot, tous les matins ils se lèvent, ils pourchassent en gros les mêmes petits trafiquants, les mêmes dealers, ils les voient, ils les arrêtent, ils les retrouvent parce qu'ils sont mineurs. Au bout d'un moment, il y en a quelques-uns qui flanchent. Les policiers ont beau être solides et avoir la foi dans leur métier, il y en a un certain nombre, on en a vu à Marseille, on en a vu en banlieue parisienne, qui flanchent et qui à un moment donné, au lieu de confisquer la barrette de shit et de la détruire, bah ils vont la garder pour eux. Et puis après, ils vont garder quelques petits billets de banque. Donc ça corrompt sur son passage.
Ce sont des cas isolés quand même.
Ce sont des cas isolés, mais la puissance de la drogue, de l'argent de la drogue, est telle qu'il y a un danger. Mais il y a aussi des douaniers, il y a aussi des dockers, il y a aussi. Ce que je veux dire, c'est que. Et puis il y a des pays du monde, en Amérique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, où la drogue corrompt jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est aussi ça, c'est socialement, c'est
quand
même un danger.
Vous allez assez loin dans le livre. Hein. Vous donnez la parole, par exemple, à Serge Costello concernant le 93, ancien commissaire de police, qui qualifie le département de narco-département. Sur quoi se base-t-il pour dire ça ? Narco-département, c'est quand même
c'est lourd. C'est peut-être, il y a peut-être un petit côté provocateur dans la bouche de cet ancien commissaire à la retraite, parce qu'il est à la retraite, qu'il peut parler librement d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, ce qu'il a constaté sur le terrain, c'est que l'impact économique de l'argent généré par le trafic dans un département comme le 93 est tel que ça voisine à peu près... Enfin, je veux dire, ça finit par faire de l'ombre à l'économie réelle et officielle.
Oui.
C'est-à-dire l'économie clandestine, à un moment donné, c'est là où on parle de narco-département. Ce qui l'a troublé, lui, ce policier, et moi je l'ai constaté aussi, c'est à partir du moment où on a des élus locaux qui, dans leur commune, vont s'appuyer, recruter pour faire campagne et peut-être même pour donner des places à la mairie, sur des trafiquants de drogue.
Alors,
et ça, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Bagnolet, on l'a vu à Marseille. Là on peut parler de narco-département parce que la politique et le trafic se mêlent et s'imbriquent.
Avec les trafiquants et l'argent de la drogue. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a tout un volet de votre livre qui revient sur la capacité des dealers à trouver des filons pour blanchir l'argent. Même d'ailleurs, les petits dealers, ils investissent, dites-vous, dans des kebabs, des boîtes de VTC, des petits commerces ou des terres agricoles au Maghreb. C'est si facile que ça de blanchir de l'argent ?
Si vous avez la chance d'avoir un bout de votre famille dans votre pays d'origine, je pense à l'Algérie, au Maroc, ou au Sénégal ou au Mali, disons qu'il y a un avantage, c'est que la police française sera bien en peine de confisquer vos biens si d'aventure l'idée la prenait. Donc déjà, si vous êtes un peu malin, vous placez une partie de vos économies là-bas sur place. Mais en même temps, sur place dans le territoire en France, vous avez besoin d'une petite vitrine quand même, une petite façade, et puis d'un petit business qui permettrait de légaliser, de faire émerger cet argent pour pouvoir l'utiliser. Parce que c'est bien beau d'être riche, mais si vous ne pouvez pas l'utiliser...
Vous racontez c'est... d'ailleurs un épisode qui va beaucoup plus loin et qui est assez vertigineux de ce point de vue-là, dont on avait déjà entendu parler. Vous vous rappelez que, notamment lors de la crise de 2008, les banques qui sont à l'époque en manque de liquidité, avec les faillites que l'on sait, ont fait rentrer en masse de l'argent, du trafic, notamment en Espagne. Des sommes colossales.
Bah, si vous voulez, le crime adore la faiblesse. Le crime saute sur tous les points faibles. Le crime adore les territoires en difficulté, les pays en difficulté, les banques en difficulté. Pourquoi ? Parce que dans ces zones-là, sur ces territoires et ces établissements bancaires, à un moment donné, tout simplement, il suffit de fermer les yeux. À un moment donné, vous avez quelqu'un qui vous amène 1 million en espèces. Bon, vous lui demandez d'où ça vient, il peut vous raconter ce qu'il veut, n'importe quoi. Il peut vous dire qu'il a fraudé le fisc et que c'est pas très grave, ce qu'il peut inventer. Mais toujours est-il que dans les périodes de difficulté, de crise sociale, économique, effectivement, cet argent appâte notamment les banques.
Et ce qui est fou, pour terminer, Frédéric Poquin, c'est la capacité aujourd'hui, ça raconte aussi le monde qui est mondialisé, internationalisé, un petit dealer de cité est en capacité d'aller rencontrer un ponte du trafic international en Colombie et de traiter quasiment en direct avec lui.
Longtemps, ça a été l'apanage, ce genre de contact, c'était le carnet d'adresse des cambouilleux français qui importaient, qui parlait l'espagnol, ils l'avaient appris parce qu'à l'époque, ils étaient allés se réfugier sous Franco. Ils étaient partis
et puis on
n'allait
pas en Colombie comme ça.
Et ils étaient allés voir Pablo Escobar en Colombie, qui les avait bien reçus parce que c'était des voyous comme lui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ces 20 dernières années, en prison, la plupart du temps en prison, les jeunes caïds ont noué des contacts avec des Colombiens, avec des Mexicains, avec des Brésiliens. Et bon, en prison, on échange ses numéros de téléphone, ils se retrouvent à la sortie. Et là, il y a des affaires qui commencent à fonctionner. Et donc, ils ont établi des lignes directes entre, je sais pas, Blois et Bogota, et entre la Seine-Saint-Denis et Bogota, des lignes directes qu'eux-mêmes ont cultivées. Ils n'ont plus eu besoin des grands voyous français.
Voilà, lisez-le si tout cela vous intéresse. Ça s'appelle « Les narcos français brisent l'omerta ». C'est aux éditions Albin Michel avec Frédéric Ploquin. Donc, et c'est absolument passionnant. Il y a plein de choses dedans, plein d'infos, plein d'anecdotes.
Beaucoup des policiers. Il faut le dire quand même.
Font un boulot admirable.
Là, on a parlé de la corruption, mais la plupart des policiers font un boulot absolument incroyable. Et tous les jours, ils y retournent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens qui retourneraient de cette façon-là aussi régulière.
Merci Frédéric Ploquin, merci d'avoir été notre invité ce soir dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et conférence de presse de Jean Castex ce soir, pas de nouveau tour de vis et pas de reconfinement. La situation ne le justifie pas, dit le Premier ministre. Ce reconfinement ne peut s'envisager qu'en dernier recours. Jean Castex qui précise que la circulation du virus n'a pas sensiblement augmenté ces dernières semaines. Plus de 100 000 personnes sont vaccinées par jour depuis hier, indique le Premier ministre, qui salue par ailleurs un taux d'adhésion remarquable à la vaccination en EHPAD. Il dit aussi mesurer l'angoisse des plus de 75 ans qui n'ont pas encore pu avoir de rendez-vous. Et il annonce l'ouverture dans les prochains jours d'1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour la première injection. Il assure enfin qu'avec le nouveau vaccin d'AstraZeneca, nous pourrons atteindre l'objectif de 4 millions de personnes ayant reçu la première dose d'ici la fin du mois. Notez que Mayotte se reconfine pour 3 semaines face à la diffusion du virus, notamment chez les plus jeunes. Emmanuel Macron, lui, veut renforcer la prévention contre le tabac et l'excès d'alcool. Le chef de l'État qui présentait aujourd'hui la stratégie de la France pour les 10 prochaines années en matière de cancer. Il vise une génération sans tabac. Et puis le maire de Marseille veut vendre le stade Vélodrome parce qu'il coûte trop cher, trop d'argent à la ville. C'est une gabegie financière, dit Benoît Payan.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 19h. Un petit coup d'œil au temps avant de passer aux grandes voies du jeudi avec Anissa. Une légère accalmie demain en prévision.
Oui, avec des averses, des légères averses sur une zone allant de l'Atlantique jusqu'au Grand Est en passant par le centre Val-de-Loire. Des averses qui vont durer toute la journée. Partout ailleurs, le ciel est couvert. Dans l'après-midi, les éclaircies seront généreuses sur la Bretagne et la Normandie. Vous allez passer plutôt une journée sympa. Dans le sud, sur le Languedoc et les Cévennes, le ciel va se couvrir au fil des heures et la pluie arrive avec le vent d'autan qui se renforce et qui va souffler jusqu'à 90 km/h. Du côté de la Côte d'Azur et de la Corse, là nous aurons des entrées maritimes qui en plus de ça seront tenaces toute la journée. Les températures, 4 à 11 degrés demain matin, 9 à 19 degrés au meilleur de la journée, c'est stationnaire. 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 13 à Nantes, 15 pour Toulouse et 18 à Marseille. La baisse très franche des températures est prévue pour ce week-end.
Eh bien, on a hâte d'avoir froid et de se retrouver sous la couette pour le week-end. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h33, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et on va donc débriefer ensemble cette conférence de presse de Jean Castex qui se poursuit d'ailleurs en ce moment, accompagné de plusieurs ministres, dont Olivier Véran pour la santé. Alors pas de nouvelles annonces contraignantes, on vient de le dire, mais un point d'étape en quelque sorte sur la situation et la vigilance face à la progression du virus. Première confirmation, il n'y aura pas pour l'instant, la ligne est maintenue, de reconfinement.
Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter.
Voilà. Réaction Éric Scholl. D'abord dire que le cap est maintenu d'une certaine manière, celui qui avait été édicté par Emmanuel Macron, un peu à la surprise générale, on en a déjà parlé à ce micro ici même, mais ça peut marcher.
On a l'impression que c'est un peu l'oral de rattrapage pour Jean Castex, parce que la semaine dernière, c'est quand même lui qui a annoncé qu'on ne ferait pas de reconfinement, alors que quelques jours auparavant, il avait dit que ça serait très difficile d'y échapper. Aujourd'hui, il nous dit qu'on va continuer à l'éviter, et avec peut-être un peu plus d'assurance que lorsqu'il l'a annoncé le non-reconfinement vendredi dernier.
Mais ça peut marcher. C'est peut-être en train de marcher.
Bon, parce qu'en ce moment, les indicateurs sont... parce qu'actuellement, les indicateurs sont effectivement très élevés. Ils sont quand même à un niveau très élevé. D'ailleurs, il l'a reconnu. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on va... quand on fait une analyse internationale et quand on regarde ce qui s'est passé, notamment en Asie, je ne vois pas comment, aujourd'hui, on évitera à un moment ce reconfinement. On est à des
Vous êtes plutôt pessimiste sur la suite, alors?
Oui.
Oui, Michel Cotard.
Oui, sauf que les indices sont contradictoires. Hein. Il y a des indices, notamment, de... qui montre que, oui. Certes, ça progresse, mais que les réanimations, etc. Donc, il y a quand même des indices positifs. Alors, moi, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est le cas d'Italie. C'est-à-dire que l'idée que l'Italie ouvre au maximum aujourd'hui montre bien que certains pensent que c'est possible, qu'on n'est pas tout seul.
Oui, l'Espagne n'a pas reconfiné ses restaurants,
et
ses bars.
Même, on est en partie, on ne s'en aperçoit même plus maintenant, mais... c'est vrai qu'on est en partie confiné quand même. On est confiné à partir
de 6h
du soir.
Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que si on regarde les chiffres, pour rebondir sur ce que vous dites, Michel Cotta, de façon objective, ils sont plus élevés que lors du confinement au printemps dernier, plus élevés que lors du reconfinement en novembre dernier. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est la stratégie du gouvernement qui est en train de changer.
Attention, pas tous les chiffres, parce que ce qui pose véritablement problème, c'est la réanimation. Et là, on est sur des données qui ne sont pas... catastrophique. On reste
on est au-dessus de tout ce qu'avait dit le président. À plus de 3000 personnes en réanimation, on est au-dessus de 21 000 contaminations par jour.
Il y a plusieurs points qui sont extrêmement intéressants et qui expliquent pour le moment qu'ils sont sur une stratégie de soutien à l'économie plus que sur une stratégie sanitaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui aurait justifié un troisième reconfinement? C'est une explosion du variant britannique.
Non, c'est l'engorgement des urgences.
Bien sûr, mais pour le moment, nous ne sommes pas aux engorgements des urgences. Il va y avoir, là, à nouveau, des annulations d'opérations. C'est-à-dire que les hôpitaux parisiens sont en train de le faire. Pas parce qu'ils sont totalement dépassés, mais parce qu'ils ont du personnel de malades. Donc, ils n'arrivent pas à faire face. Mais on n'est pas encore dans la situation. On est effectivement, comme le disait très bien Eric, sur des plateaux qui sont élevé, mais nous ne voyons pas d'explosion pour le moment. Et c'est comme ça que notamment les ministres économiques arrivent à gagner leurs arbitrages pour le moment, de rester un peu ouverts.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un changement de stratégie, qui est notable quand même. C'est-à-dire qu'on essaye de passer par ce trou de souris sur la ligne de crête pour éviter le reconfinement.
Excusez-moi, il n'y a pas de changement depuis que le président a annoncé qu'il n'y aurait pas de confinement et depuis que le Premier ministre l'a annoncé aussi. Il n'y a pas de changement depuis 3 semaines.
Le sanitaire primé sur l'économie jusqu'à présent.
Oui,
le sanitaire primé sur l'économie. Et tout le monde,
15 jours,
dans l'entourage du président, nous disait que la décision serait prise.
On n'a pas le droit de dire que c'est un pari, mais c'est quand même effectivement un engagement politique du président face quand même au corps médical qui est, je préfère ne pas procéder à un second reconfinement qui tuerait pour
et
le coup.
Comme le dit Michel, on est quand même dans un semi-confinement. On est en couvre-feu à partir de 18h. Nos restaurants, nos bars, nos boîtes de nuit et tout ça sont fermés. il y a quand même.
Enfin, je vous rappelle que.
Non, mais ça veut quand même dire une chose. Ça veut quand même
qu'il y a 15 jours, on s'apprêtait à fermer les écoles, on s'apprêtait à fermer les commerces, on s'apprêtait à supprimer les autorisations de.
Beaucoup de commerces. On s'en aperçoit même plus au fond. On vit tellement dans cette atmosphère depuis longtemps qu'on ne s'aperçoit pas qu'on n'a même pas le droit de boire un café.
Souvenez-vous Gabriel Attal qui nous a annoncé un confinement très serré. Mais c'est sous-entendu comme au printemps.
Il y a une autre stratégie possible et qui commence à être largement partagée par les experts, c'est celle du zéro Covid, celle qui a été appliquée en Asie, en Océanie, qui consiste à dire à un moment, on reconfine très strictement, très sévèrement, pour mieux vivre après, de façon beaucoup plus libérée. Nous, on a choisi autre chose, on se dit, c'est vivre avec le Covid.
Mais économiquement, c'est plus judicieux d'ailleurs, parce que vous avez vu les prévisions de l'INSEE, par exemple, qui nous dit que s'il n'y a pas de reconfinement, la croissance serait de 1,5%
au premier trimestre. On peut retourner au restaurant, etc. Aujourd'hui, nous, on a décidé de vivre avec le Covid.
Oui.
Donc, on essaye, on met des mesures pour essayer de réduire. Et vous voyez jusqu'où on est allé. Maintenant, on a un couvre-feu à 18h. On fait tout pour éviter.
Oui, mais ça coûte moins cher à l'économie qu'un reconfinement total, même qu'il ne durerait qu'un mois.
Tout dépend combien de temps ça dure. Parce que si on est dans cette stratégie de vivre avec le Covid, ça nous coûte quand même entre 6 et 9 milliards d'euros par mois, à peu près. C'est extrêmement coûteux. Et pour le moment, on ne se débarrasse pas. On est quand même, on l'a dit tout à l'heure, le variant est passé de 3% à 14%.
Mais même avec un reconfinement d'un mois, le chômage partiel continuerait d'être maintenu. Il y aurait quand même un soutien à l'économie puisque le virus ne disparaîtrait pas.
De toute façon, on a été confiné totalement pendant un mois. Nous l'avons été en mars dernier. Ça n'a pas arrêté l'épidémie.
Oui.
Il y a beaucoup d'endroits qui se sont reconfinés 3 fois. On n'est pas les seuls. Donc ça veut dire que si le confinement est total était la solution... Eh bien, c'est formidable, évidemment. Ça vaudrait le coup, mais ça n'est pas la solution.
On n'a eu qu'un seul confinement total. Moi, ce dont je suis totalement persuadé, c'est que pour le moment, ils ne sont pas tout à fait certains qu'on soit économiquement capable de faire face à un nouvel arrêt total de l'économie. Et ce dont ils sont à peu près certains, c'est qu'un semi-confinement comme ce qu'on a eu en novembre n'est sûrement pas suffisamment efficace pour casser complètement la chaîne de contamination. Donc oui, comme vous le disiez très bien, Julien, ils sont sur une ligne de crête, ils font à Paris, et puis après, on est typiquement français, on râle quand on est confiné, on râle quand on n'est pas confiné.
Là, on râle pas tant que ça, finalement, comparé aux autres. Moi, je regardais la presse étrangère, ça râle pareil.
Bien évidemment.
En Italie, en Espagne, aux États-Unis.
C'est important de le dire.
Je regardais les États-Unis, par exemple, dans la région de Floride, ça râle tout pareil parce qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins.
Et il y a un point sur lequel il a changé sans doute par rapport à l'année dernière et qu'on n'arrive pas à faire. On avait dit qu'on arriverait à tester, ça y est, on sait faire, on teste maintenant beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques mois. Isoler, on n'y est pas. Isoler les gens qui sont malades, et c'est les contaminations, elles arrivent aussi par ce biais-là, c'est-à-dire à réellement arriver à mettre en place ces quarantaines. Et ça, c'était vraiment une grande spécificité.
Mais pas le sentiment que les gens le font d'eux-mêmes ?
On le sait que ça ne fonctionne pas, ça n'a strictement rien à voir avec les mesures quasiment obligatoires qui sont mises en place dans la plupart des pays d'Asie, où pour le coup, on sait isoler. En France, en tout cas, ça ne fonctionne pas suffisamment. Et ça, c'est un vecteur de contamination assez rapide. Peut-être que là-dessus, il y a des progrès encore à faire.
En tout cas, politiquement...
Oui, on pourrait faire comme en Chine, on peut clouer les portes d'entrée, évidemment.
Sur la vaccination, là aussi, Emmanuel. Les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par le Premier ministre, ça y est, on est dans la course mondiale. Alors oui, on a complètement raté le démarrage. Oui, on a des doutes sur les doses qu'on va recevoir. Mais sur le niveau aujourd'hui de vaccination, il faut aussi dire ce qui fonctionne à peu près bien. On a tellement critiqué, et sûrement à raison, c'était une foirade totale au démarrage.
Oui.
Force est de constater...
Ça a provoqué un électrochoc
quand
même.
Mais bien évidemment, et force est de constater qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Si vous voulez des rendez-vous, vous arrivez à peu près aujourd'hui à avoir des rendez-vous. Notre machine s'est mise en place. Alors oui, on a des ratés, oui, on n'a toujours pas de vaccin 100% français, ce genre d'histoire. Mais... on fait des choses qui avancent et je pense que c'est ça aussi qui en partie les rassure.
Alors, je vais faire un peu de politique, mais cette stratégie d'Emmanuel Macron de contre-pied quand même, ça fonctionne puisque vous avez vu sa cote de confiance, il gagne 3 points en un mois, 39% d'opinion favorable. En fait, l'enjeu politique est aussi très fort pour lui. Il sait que rater la campagne de vaccination, reconfiner, rater cette période-là qui nous emmène jusqu'à l'été, c'est rater sa possible réélection à la présidentielle.
Jusqu'à l'été au moins, on n'en est pas sûr. On dit à l'été au moins parce que la vaccination sans doute aura créé un arrêt ou aura cassé.
Il y aura deux éléments. Il y aura le printemps aussi. On a observé l'an dernier que le printemps avait eu un effet.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas tellement de temps maintenant. Vous savez, si on est même en l'été, on finit cette période-là. Il n'y a plus qu'une dizaine de mois pour aller. Donc c'est son score d'aujourd'hui au fond qui est important. Et j'ai remarqué qu'il s'était, lui, réservé la case vaccination, c'est-à-dire la case du futur, comment nous on en sortira.
Et la tandis case que c'était le Premier ministre qui c'était de la hauteur d'un président de la République lundi soir de faire une mardi soir de faire cette réunion vaccin avec 40
lorsqu'il
personnes.
Lorsqu'il est trop, on dit que c'est Jupiter. Lorsqu'il fait une interview comme ça, inattendue.
Ceux qui m'ont raconté cette réunion m'ont dit que c'était long et pas très utile.
Bien, en tout cas, il y a eu des annonces à l'issue. Peut-être que tout ça avait été décidé avant. Les quatre centres français.
Les quatre centres, on les connaissait depuis belle
durée. En tout cas, ça a été
annoncé à l'issue. Non, mais ça, ça avait été annoncé par Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de ça, au même micro qu'est aujourd'hui Michel. À Europe 1, on les connaissait ces centres, il n'y avait pas d'annonce là-dessus.
Bon, il avait envie de rassurer les Français.
Dans les sondages, ça a marché,
mais on les connaissait.
Je pense qu'il y a un aspect aussi psychologique, on a beaucoup parlé du moral des Français, mais à partir du moment où on ne leur a pas annoncé, c'est vrai, un confinement, ils se sont dit, s'ils n'annoncent pas de confinement, c'est sans doute qu'on a des raisons d'espérer, peut-être que la situation est meilleure que ce qu'on pensait nous-mêmes, et puis il y a aussi l'aspect scolaire. Le simple fait de se dire, bah, finalement, les écoles ne ferment pas, en tout cas pour le moment, et que la vie continue, pour les parents, c'est très important, pour les familles, c'est très important, ça a donné aussi un tout petit peu, on est sorti de cette période où,
d'espérance
et de visibilité, en tout cas sur les prochains jours, sur les prochaines
et
semaines.
Et puis sur un plan sanitaire, on en parlera juste après la pause, mais les vacances, c'est aussi un pari, parce que ça peut avoir un impact pour baisser la circulation du virus. On se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h46, la suite du débat des grandes voix du jeudi. On continue de débriefer les annonces de Jean Castex et de ses ministres sur la situation sanitaire en France avec toujours Michel Cotta, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Alors, il y a aussi la question du télétravail. Et on sent que là-dessus, le gouvernement veut accélérer les choses parce que c'est vrai qu'il y a eu une forme de relâchement de la part des entreprises. Le Premier ministre a dit ceci sur la question.
Télétravailler partout où c'est possible devient impératif. Or, depuis la fin de l'année, le recours au travail s'est réduit. Ce qui est d'autant plus regrettable que beaucoup d'entreprises n'avaient pas déployé toutes les possibilités d'en faire. Il y a encore trop de milieux professionnels où le télétravail serait possible, mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles. Les administrations publiques doivent en particulier montrer l'exemple, et j'y veillerai.
Oui, c'est un sujet compliqué, Emmanuel Duteil, le télétravail, parce que d'un côté, évidemment, ça freine la circulation du virus, il y a moins d'interactions sociales, on travaille de la maison, mais ça fait un an maintenant que les salariés sont en télétravail pour certains, et on sait l'impact psychologique, les impacts sociaux que ça a sur les personnes en télétravail, et puis aussi sur l'entreprise, hein, ça perturbe le fonctionnement normal d'une entreprise.
Oui, là c'est vrai qu'on est vraiment sur un sujet qui est très compliqué, parce que ce soit du côté des patrons et du côté des salariés, il y a une envie de revenir en partie au travail. Alors souvent, il y a une envie d'avoir...
D'ailleurs, là-dessus, les syndicats et le patronat sont assez raccord.
Bien sûr, il y a une envie d'avoir un, deux, voire parfois trois jours de télétravail par semaine, mais pas plus, parce que les collaborateurs, pour nombre d'entre eux, disent on a besoin d'avoir une vie de travail, on a besoin d'avoir une vie sociale. Donc c'est vrai que dans de nombreuses entreprises, le télétravail s'est considérablement allégé ces derniers mois. Malgré tout, là, les entreprises vont quand même être contraintes d'y repasser, puisque le ministère du Travail va
Elles vont vraiment jouer le jeu, vous pensez ?
Alors, elles vont pas avoir le choix, malheureusement.
Pourquoi ?
Ou heureusement, parce que le ministère du Travail va relancer des séries de tests et de vérifications au sein des entreprises. Les plus grandes entreprises vont être directement appelées une par une pour dire exactement ce qui se passe chez elles en télétravail et vont devoir le prouver. Et par ailleurs, du côté des petites, il va y avoir beaucoup plus de contrôle, y compris oui. au sein. Alors, ils ne sont pas 50 à vérifier, hein, donc vous n'avez pas le risque, si vous êtes chef d'entreprise, a priori, d'avoir le contrôleur à la porte. Mais malgré tout, il y a une pression qui est mise. Mais je pense quand même qu'il faut qu'ils fassent attention là-dessus parce que nous, on le voit au service économie et sociale, le nombre de remontées qu'on peut avoir de salariés et qui ne sont pas du tout syndiqués ou ce genre de choses, hein, de salariés
ensuite,
lambda,
ensuite,
qui sont en difficulté,
en
souffrance.
Par rapport à ce qu'on disait en première partie, ils sont quand même obligés de faire un choix. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de ne pas reconfiner, ils sont obligés d'accélérer sur d'autres leviers.
Et
le télétravail en est un, Michel Cotta.
La réaction des Français est très intéressante parce que vous avez des gens très contents hein, du télétravail, qui cherchent des logements ailleurs qu'à Paris, qui veulent s'établir dans une ville moyenne, qu'on comprend très bien, et qui sont vraiment ravis. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qu'on croise dans la rue et qui vous disent « le bureau, c'est nécessaire, le bureau, pour moi, c'était essentiel, voir des gens, boire un café ». Donc, la réaction des Français est tout à fait antinomique et il y a deux sortes de Français. Je trouve ça très intéressant. Sur les intéressant, impacts psychologiques,
la
dans le même immeuble,
réels,
il y a des gens qui adorent rester et d'autres qui adorent partir. Quoi.
Éric Scholl.
Bah, parce que, effectivement, mais on se rend bien compte à quel point le télétravail à 100% ou quasiment 100%, ça devient très compliqué. Autant on a tous su s'y mettre, on l'a tous découvert en quelques jours, de travailler par visio, de faire tourner une entreprise, faire tourner un journal par exemple. Tout ça, ça peut fonctionner sur le plan technologique, mais sur le plan du management, sur le plan social, c'est compliqué. Et il y a des populations de salariés pour lesquelles c'était encore plus compliqué. Prenez un jeune entrant dans une entreprise. Il y a des gens qui ont été recrutés pendant la période du télétravail. Ils n'ont quasiment jamais vu leur entourage, leur chef, pour essayer de développer des interactions sociales au sein de l'entreprise. C'est quand même très compliqué. Donc, oui, c'est important de garder une petite marge, un moment où on puisse se rencontrer dans la semaine, un moment où on puisse se dire les choses. Oui. Ça marche bien, ça marche pas. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Vous savez, le fameux rendez-vous au café.
Rendez-vous couloir au café.
Mais il y a quand même eu un sacré relâchement, parce qu'il y avait quasiment 2 salariés sur 3 qui étaient en télétravail quasiment à 100%. Je crois en octobre ou novembre dernier. Aujourd'hui, c'est plutôt 1/2. Donc, d'ailleurs, on le mesure aux embouteillages dans les agglomérations. Vous allez à Bordeaux, vous allez à Lyon, Nantes, Paris, évidemment. À l'ouverture des bureaux, il y a plein de gens dans les rues. À la fermeture des bureaux avant 18h, il y a plein de gens dans les rues. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas en novembre dernier.
Oui, ça c'est certain. Il y a une évolution extrêmement notable en la matière. Et même dans des secteurs où, semble-t-il, c'était extrêmement bien respecté, dans les grandes entreprises de la banque, de l'assurance, ils sont très très organisés, avaient déjà du télétravail avant. Et même là, semble-t-il, le ministère du Travail a l'air de dire qu'il y a... Alors, j'aime pas le mot relâchement, parce que ça voudrait dire qu'il y a une faute, mais il y a cette envie commune de se retrouver et d'être un peu plus présent. Mais le point très important que disait Éric Scholl à l'instant, moi je raccroche avant de venir là en studio avec le patron de Mano Mano, qui est le leader européen du bricolage sur Internet. Il dit « j'ai recruté 220 personnes cette année en Zoom ». Il y a bien un moment, j'ai besoin de les voir.
Oui.
Et il y a bien un moment, on a besoin de créer une culture d'entreprise quand on recrute tant. Donc il y a tout ça aussi qui joue en ce moment. Mais le message finalement qui est derrière tout ça, c'est Jean Castex nous dit « faites ces derniers efforts si vous ne voulez pas de confinement. On est dans un truc un peu incantatoire pour le moment. Faites ces efforts, retournez en télétravail, sinon je vous confinerai. » Il va pas au bout de la phrase.
Et ça peut fonctionner, ça peut fonctionner ?
Là, je pense que oui, il y a quand même certains patrons qui sont en train de se dire « Bon sang, on va peut-être remettre un peu de télétravail parce que sinon on va se faire gronder. »
C'est tant, vous savez que ça pose des problèmes particuliers dans des bureaux. Tous les bureaux récents sont des bureaux paysagers. Et dans les bureaux paysagers, effectivement, c'est très difficile de cohabiter lorsqu'on est plusieurs, lorsque les bureaux sont ouverts, où il n'y a pas une cloison. D'ailleurs, regardez, même dans le studio, ici, on a mis des petites cloisons.
On a les masques et on a mis des cloisons.
Mais moi, je me pose la question de l'avenir des bureaux, de l'avenir de ce genre de bureaux, si la moitié des Français se convainc.
La recomposition des bureaux, ça c'est certain. Mais pour ça, il faudra que les entreprises...
C'est important parce que ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises.
Ah, ça, c'est
si les entreprises réduisent leur loyer, ils peuvent aussi trouver que ça a des avantages.
Il y a un élément qui peut, je le disais tout à l'heure, juste avant la pause, qui peut freiner aussi la circulation du virus, sur lequel le gouvernement mise, c'est la fermeture des écoles pour cause de vacances scolaires. Alors c'est un peu chacun son tour, parce qu'on est sur des vacances qui sont étalées sur les 3 zones, A, B et C, en fonction de la région dans laquelle on habite. Mais ça aussi, ça peut freiner les interactions sociales. Ça peut être un élément sur lequel le gouvernement joue
sa chance. Ça peut être à double jeu, parce qu'effectivement, les écoles ferment, donc on se dit moins d'interactions à l'école. Mais finalement, on sait que l'école... On connaît à peu près le niveau de contamination, on peut le maîtriser. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est les interactions pendant les vacances, sur les lieux de vacances, c'est-à-dire les déplacements en famille ou ailleurs dans d'autres régions, les retrouvailles entre familles. Et ça, bon, on a vu qu'à Noël, ça a été beaucoup moins...
Je crois que les gens restent très prudents maintenant.
C'est
quand même
qu'on a observé en tout cas, ouais. Et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, que finalement les craintes qu'on pouvait avoir...
Il n'y a pas eu d'explosion du nombre de cas après Noël et
de Noël. Il n'y avait pas lieu d'avoir une telle crainte. Donc on peut se dire qu'on va réussir à passer ce cap des vacances de février en continuant à être prudent. Mais c'est vraiment cette ligne de crête dont on parle tout le temps. On voit qu'on est en permanence, que ce soit sur le télétravail, sur les vacances, etc. C'est cette nécessité en permanence de rappeler la prudence. Alors, indispensable.
Il y a l'enjeu économique dont on parle depuis tout à l'heure. Je voudrais vous faire réagir à une phrase qu'a prononcée Gérard Larcher, le président du Sénat. Le quoi qu'il en coûte ne peut pas être un mode de vie. Comment faut-il interpréter cette sortie du président du Sénat dans le contexte actuel ? Michel Cotard.
Dans le contexte actuel, évidemment, ça paraît
bizarre.
C'est un peu prématuré. Mais c'est justement parce que c'est prématuré qu'à mon avis, c'est important politiquement. Ça veut dire que le président du Sénat, qui est quand même d'une certaine façon très important dans le groupe républicain, qui ne trouve pas au fond de héros à sa mesure.
Bon, oui.
Le président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État. Quand il dit voilà ce qu'il va falloir faire, ça veut dire que d'une certaine façon, il dit lorsque nous serons au pouvoir, nous,
oui.
Voilà ce que nous ferons. Mais peut-être pas maintenant, d'ailleurs.
C'est pas risqué,
il l'a dit,
politiquement,
hein.
Quand même.
C'est vraiment. C'est
de
vraiment
dire cela à ce moment-là.
Là aussi, un pari politique.
Éric Scholl ?
Depuis un an, on a l'impression qu'on peut ouvrir tous les robinets et qu'en fait, c'est bien et c'est nécessaire. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'à un moment, ces robinets, il va falloir les fermer. Quand est-ce qu'ils vont fermer ? Le vrai, celui que je plains déjà, c'est le ou la future ministre des Finances du prochain quinquennat. Parce que là, il y aura un véritable...
Gérard Larcher, peut-être, s'il appartient.
Parce que là, ça va être une mission, ça va être tout d'un coup... redressement en partie des comptes publics. Là, on a bénéficié, pour ouvrir ces vannes, on a bénéficié d'un contexte très particulier. Les taux d'intérêt sont très bas. Donc, oui. On peut emprunter, mais massivement, c'est ce qu'on fait.
Mais faut le redire,
et on a raison de le faire.
Il faut le redire, le soutien à l'économie française est inédit dans le monde. Si vous êtes italien, si vous êtes allemand, si vous êtes anglais ou américain, la situation n'est pas du tout la même. Pour les commerçants, pour les salariés au chômage partiel, pour le monde de la culture, pour tous ces gens-là, on est quand même dans une situation de soutien à l'économie qui est vertigineuse, effectivement, quand on voit, et c'est tant mieux, mais l'addition que ça va représenter à la fin.
Vous avez à 100% raison, et c'est vrai qu'on ne le dit sûrement pas assez, la qualité de l'accompagnement économique est assez impressionnant, mais c'est presque parce qu'il est si bon qu'on ne sait pas en sortir. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont tout à fait conscience que dès qu'ils vont, par exemple, enlever le chômage partiel, vous avez une explosion des plans sociaux à la minute même où ça va se passer. Et donc là, c'est aussi toute cette inquiétude de se dire...
Mécaniquement,
parce que là, aujourd'hui, de nombreux patrons ne licencient pas parce qu'ils ne paient pas le salaire du collaborateur. Le jour où ils vont devoir le payer, ils en seront bien évidemment totalement incapables, mais dans des dizaines de secteurs...
Parce que le business ne pourra pas repartir pour compenser.
Parce que le business ne repartira pas assez, parce que les trésoreries sont vides. Et ça, c'est un véritable problème pour l'avenir, de trouver le moyen... Il faut sûrement le garder un peu plus longtemps pour pouvoir repartir. Le problème qu'ils ont, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas reconfiner aussi, c'est qu'ils se disent, dès que la machine se réalimente un tout petit peu, on ne va pas la réarrêter, on ne va pas tout recasser, parce qu'il faut régénérer un peu tout ça.
Bien, on aura l'occasion évidemment d'en reparler chaque chose en son temps. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, le journal de 19h, évidemment, vous restez avec nous. Et puis le grand débat du Club des idées plongé ce soir dans les secrets de la DGSE. A tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.